bonjour. Merci d'être présent pour cette deuxième partie sur l'histoire de la musique actuelle, on va dire, de musique amplifiée à travers le XXe siècle, même si on avait commencé avant, on va le faire un peu plus après, avec l'idée de regarder à travers cette histoire aussi un peu ce qui touche aux notions de translation. Alors la dernière fois, on s'était arrêté sur la première partie en 1970. On va en repartir ici. Alors, juste avant, la musique qui passait, c'était Velvet Underground, un des albums les plus connus, qui est Velvet Underground and Nico, 67, donc un peu avant, mais qui a eu un impact aussi important. Brian Eno, qui était une grande figure des années 70-80 et qui reste une grande figure de la musique, disait que cet album, qui n'a été produit qu'à 10 000 exemplaires la première fois, a suscité la vocation de 10 000 groupes. Voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Donc je voulais aussi partir avec le Velvet, qui a vraiment marqué beaucoup de choses. Comme je l'avais dit la dernière fois, 69-70, ça marque vraiment une transition assez importante en termes de musique, et puis aussi en termes sociétal. On a vu que la musique avait commencé à prendre beaucoup d'importance dans la société, avec notamment toutes les notions de revendication qui transparaissaient à travers la musique. Vous savez, dans les entre-autres du festival de Woodstock, à la fin évidemment. Voilà, il y a des choses comme ça qui se passent, qui vont être très très fortes. Les mouvements sociaux aux États-Unis à la fin des années 60 seront notamment marqués par des prises de position très fortes des artistes. Il y a tout ce qui va se passer sur la question de la lutte pour les droits des populations, entre autres noires aux États-Unis, avec entre autres les Black Panthers et ce genre de mouvements, qui vont être très très appuyés par des artistes, notamment toute la vague du Black Power qui va vraiment suivre tout ça. 69-70, c'est donc aussi, comme je l'avais dit, la fin de plusieurs grands groupes et de plusieurs aussi grands artistes, grands mythes qui vont s'arrêter. La fin des Beatles en septembre 69. Décembre 69, c'est aussi un événement qui va beaucoup marquer, qui va être l'assassinat d'un spectateur lors d'un concert des Stones, tué par un Hells Angels. Et là, ça a été quelque chose de très très important, qui a montré un petit peu aussi les limites du flower power, du rêve américain d'unité, et de l'idée qui était de dire que tout le monde est là pour partager la musique. Donc les choses reviennent un petit peu comme ça en pleine figure, et 70 part aussi un peu sur ces idées, avec entre autres la mort de grandes figures mythiques du rock qui vont mourir avec des overdoses. Donc ce sera Ian Wilson, Ken Beat, Jimi Hendrix, Janis Joplin, et puis l'année d'après en 71, Jim Morrison. Donc les choses vont vraiment aussi prendre de nouvelles tournures à cet endroit-là. Depuis la fin des années 60, le rock est devenu... Le rock est devenu un peu plus expressif, et il va aborder de façon plus complexe, en tout cas la question de la condition humaine. Les paroles vont aller vers des sujets un peu plus importants, un peu plus sociétaux. Et un nouveau public va se mettre autour du rock. Cette musique, elle va prendre, enfin, quand je parle de rock, donc tout ce qui est électrifié. Il va y avoir des choses aussi importantes. On va voir arriver le rock progressif, entre autres, qui va prendre beaucoup de place. Ça va être des groupes évidemment comme Pink Floyd, comme Yes, après comme le King Crimson, T-Rex, qui va avoir un énorme succès en Angleterre, qui va prendre un petit peu la relève des Beatles. Et puis ce rock, il va commencer à exploser un petit peu le format standard. Jusqu'à présent, on était sur des formats de chansons de 2030, 3 minutes, des fois 3:30. Et là, le format rock va complètement exploser. On va voir arriver aussi à cette époque-là, les instruments électroniques qui vont de plus en plus être intégrés à la musique de façon plus ou moins légère. Par exemple, dans Led Zeppelin, dans l'album numéro 2, Philippe Page, le guitariste, utilise un theremin, donc il y a un instrument qui joue avec des ondes sonores. Les choses vont arriver comme ça progressivement vers 69-70. On va avoir aussi à cette époque-là l'arrivée de courants un peu plus durs en guitare, en musique, avec l'impression de grands guitaristes. Donc je parlais des Zeppelin avec Page qui va vraiment amener quelque chose. Deep Purple, l'arrivée de Black Sabbath qui va aussi amener le métal, on va dire, le premier pas du métal. aussi Alice Cooper, Aerosmith, Kiss, avec le début du glam rock, et de tout ce qui va être aussi le maquillage, les paillettes, les costumes, avec un travail aussi sur l'apparence un peu androgyne. Donc le mouvement hippie va commencer un petit peu à se transformer musicalement, avec des gens qui vont en fait amener à un autre discours, mais avec toujours une idée un petit peu de... Le glam va permettre en fait d'être à la fois toujours dans cet esprit de fête, un peu communautaire, un peu de danse, d'aller sur ces choses-là, et en même temps de commencer à contester un petit peu le système. Voilà. On va aussi arriver dans un autre endroit, en Europe surtout, une nouvelle forme de jazz et de musique improvisée, avec des musiciens comme John Thurman, aussi Stu Martin, Bart Phillips, qui vont fonder entre autres des trios. Je ne sais pas si vous connaissez, qui va être un des groupes très très fondateurs de ce qu'on appelle le nouveau jazz européen ou la nouvelle musique improvisée européenne. Et puis on va aussi voir arriver très vite, à partir de 70, justement cette électrification qui va aller à d'autres endroits, qui va amener ce qu'on va appeler après le crossover et surtout qui va aller vers le jazz rock et les fusions entre le jazz et puis d'autres courants musicaux, tout un grand passage. Donc ça va être à ce moment-là une chose qu'on va voir arriver. Des groupes qui vont, des musiciens qui vont marquer énormément la scène aussi des années 70, comme le Weather Report, Herbie Hancock bien sûr, vers l'autre côté Zappa, et puis Miles Davis qui va entre autres sortir Beaches Blue. Alors je vais vous en faire que c'est un petit morceau. C'est pas évident de choisir ce que je vais vous faire écouter en termes de jazz rock, mais je me disais, Beaches Blue c'est pas mal. Donc ça c'est 70 et on voit vraiment le. C'était un grand changement en fait. Dans l'histoire du jazz et de la musique électrifiée en général, on va vraiment voir ce mix, ça va influencer. Comme étant vouloir révolutionner la pop rock en utilisant en utilisant les apports qu'on peut avoir dans les beaux-arts, dans la peinture. Il a vraiment une volonté comme ça. Et de travailler le rock et la musique comme des œuvres d'art pleines. Brian Eno, quand il va quitter le groupe en 73, il veut avoir j'en parle comme ça parce qu'il a une carrière, je ne vais pas revenir chaque fois, il a une carrière vraiment très 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 forte et il va vraiment permettre de faire avancer beaucoup beaucoup de choses. Il a composé en 75 Discrete Music, après Music for Airport, ça va être un peu les débuts d'une sorte de ce qu'on appelle d'ambiance musique, même si c'est un thème un petit peu large, en tout cas qui ne correspond pas vraiment à l'ambiance musique de maintenant. Il va travailler avec l'ingénieur de Kraftwerk, dont je parlerai après, qui permet la musique électronique. Il va faire après la trilogie de Bernie Mazel avec Bowie. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment être très 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 présent et qui continue à influencer énormément de gens. Et tout ça va rester vraiment dans ces années-là. C'est aussi les années où on voit apparaître des gens comme Yann Garparek, par exemple, qui va amener aussi des sonorités un peu plus feutrées, un peu plus subtiles, un lien un peu plus fort entre la musique classique, contemporaine en tout cas, et les musiques du monde, et le jazz, enfin aussi quelque chose qui commence à se travailler à cet endroit-là. 71, 72, les choses se passent un peu comme ça, et puis finalement, la vague rock progressive, même si elle continue, elle prend un petit peu de plomb dans l'aile, et c'est là qu'on va voir arriver aussi des artistes, en tout cas des gens qui vont vraiment se passionner pour revenir à quelque chose d'un peu plus spontané et remettre un peu plus de rock'n'roll au goût du jour. Ça va être entre autres parmi les choses qui ont vraiment marqué au niveau du glam rock, qui va essayer de retourner un peu de spontanéité et d'être sur quelque chose d'un peu plus dansant. Le Ziggy Stardust de Bowie. Je vous en mets un. Philippe. De funk, de soul, de pop, avec tout un travail de remix, les morceaux vont commencer à s'allonger. C'est le disco qui va amener aussi les formats maxi 45 tours pour que les gens puissent avoir le temps de danser et qu'on passe des morceaux à rallonge. Et qui seront aussi la base après le disco de tout ce qui va être entre autres le hip-hop et tout ça. Alors, le premier grand single. Il va être en prison énormément de fois, il va être torturé, il va finir qui va mourir du sida, mais en ayant, entre autres, en payant aussi le prix de toutes les années de prison qu'il aura passées. Donc je vais en mettre aussi un petit peu pour montrer ça. C'est aussi en 75.
Thank you.
dernière partie de UK qui va être vraiment la, qui va avoir un impact absolument énorme en Angleterre bien sûr, mais aussi partout dans le monde. On entendait avec les sonos, les effets sur les guitares, avec les, c'est assez terrible en fait. Une sorte de vague qui va. Donc voilà, des concerts un peu partout, des concerts avec beaucoup de frottement physique, on va dire. Une nouvelle façon aussi de se rentrer dedans pendant les concerts, vraiment un nouveau rapport à la musique, un nouveau rapport à la danse, au corps, en tout cas pendant les concerts, et puis une vraie attitude. Le mouvement punk rock il va amener aussi pas mal de choses en termes d'organisation de la musique. Il se réfère beaucoup au DIY, le do it yourself, et entre autres, il va vraiment accompagner la création d'énormément de fanzines, de labels indépendants, de structures de concerts, de lieux de diffusion, des squats un peu partout, et ça va vraiment rebattre les cartes, pardon. Changer la donne par rapport à la création et la diffusion de la musique. Le vrai mouvement alternatif très très fort va vraiment se poser à cet endroit-là. Beaucoup de réseaux en fait. En France, le punk qui va arriver à peu près à ces années-là, 76, 77, 78, et on va voir arriver des groupes comme Asphalt Jungle, Metal Urbain, Oberkampf. Et puis après, ça donnera la deuxième vague en France qui va être plutôt au début des années 80, les Perruquiers Noirs. Et après, tout ce qui va aller sur les groupes rock français qui vont s'inspirer beaucoup de cette vague-là. Notamment, par exemple, Sticky Toys, et puis un petit peu après, Little Bob Story, mais qui sera plus dans un rapport blues. Téléphone aussi, qui est un peu allié à cette chose-là, qui fera une sorte de petit pont, on va dire, même si c'est plus au niveau du rock. Et puis après, OTH, les Vampas, les Sheriffs, enfin tous les groupes qui ont fait les années 80 à ce niveau-là. Tout va se mettre en place ici. Donc là, on est à peu près au milieu des années 70, et puis on va continuer aussi à accompagner la fin et la mort des idoles. En 77, c'est le drame absolu avec la mort d'Elvis Presley qui va aussi marquer la fin vraiment de cette époque rock'n'roll et puis aussi la fin de l'époque rock'n'roll et puis marquer aussi le début d'un rapport très très mondial. Elvis en 73 il avait fait un concert à Hawaï qui avait été télévisé pour la première fois au niveau mondial, qui s'appelait Aloha from Hawaii, retransmis en direct par satellite, vu par des millions de téléspectateurs, et ça va être ça avait été vraiment le premier événement un peu interplanétaire comme ça. La mort d'Elvis, ça va avoir une assez forte répercussion aussi par rapport à cet endroit d'une espèce de vision un peu globale de la musique avec des gens qui vont essayer de reprendre la suite et puis de créer des grandes vedettes qui puissent avoir un succès interplanétaire. Je reviens avec la suite du punk. La mad punk, donc ça va être une énorme détonation en 76, 77, 78, et puis assez vite des sous-genres vont encore essaimer. Et ça va donner notamment, d'un côté, surtout aux États-Unis, tout ce qui va être la vague hardcore, qui après va amener aussi dans le noise, avec des groupes comme Black Flag, par exemple. Et puis, on va avoir en Angleterre surtout l'arrivée de ce qui va être un petit peu ce qu'on met dans le terme de musique gothique. Donc, toutes les sortes de cold wave, new wave, dark wave, post-punk, death rock, ce genre de choses. Alors, il faut s'y retrouver maintenant, parce qu'on commence vraiment sur des choses assez précises. Joy Division par exemple est considéré comme du post-punk, non pas comme du cold wave. Mais par contre, The Cure c'est du cold wave. Alors que Rhythmic c'est de la new wave. Mais ça vous le saviez, je pense. Joy Division, donc un nouveau son, un nouveau rapport à la musique. La suite du punk, il est dans un rapport beaucoup plus froid, beaucoup plus sombre. Ça, c'est extrait de leur premier album. Thank you. toute cette scène qui va suivre les pas du bug et puis qui va aller aussi vers cet endroit très vous allez dire un peu glauque quand même, un petit peu froid, qui va faire beaucoup des mules. Et puis je vous parlais de la New Wave, donc avec l'apparition, les synthés commencent à prendre de la place, et puis là on va arriver tout ce qui est tous les groupes qui vont être Depeche Mode, Eurythmics, enfin voilà, aussi une nouvelle façon qui va un nouveau rapport à la musique entre des choses un peu tristes et mélancoliques comme ça, un peu froides, et en même temps populaires qui vont prendre de la place. Ces années-là, la télévision, je vous parlais de concert des puces, entre autres, ce genre de choses, la télévision prend de plus en plus de place, il y a des émissions qui se succèdent à la télévision où il y a beaucoup d'artistes qui passent pour faire des concerts en direct, King of Pops par exemple, ce genre de choses, et puis on va avoir aussi en France, alors on avait notre King of Pops à nous, qui était les top A de Marité Gilbert Carpentier, dans les années 70, qui vont quand même avoir une assez grande importance, et puis qui vont permettre de faire émerger des, pas mal d'artistes, en tout cas de les faire connaître. Quand Gainsbourg passait à Top 1, c'était plutôt sympa. Quand c'était Dave, c'était plutôt autre chose. Bref, le mouvement continue, il y a quand même des artistes qui tiennent les 70 un peu vent debout et qui résistent un peu à toutes les modes. Les Stones, par exemple, qui ont aussi la grande intelligence de pouvoir mêler un peu ce qui se passe à leur style. Par exemple, ça va donner Miss You, en 78, qui va être aussi un grand succès. Danny Stone, ça va être un petit peu de disco au milieu, des choses un peu ensemble au boucher. La fin des années 70, ça va être l'arrivée aussi de groupes qui maintenant ont un succès planétaire, donc qui ont commencé ici, comme par exemple U2, qui va sortir son premier album en 79. On va arriver aussi le premier travail solo de Michael Jackson. Et puis donc, ce qui va être le début du hip-hop, The Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, fin 79, qui va vraiment commencer à arriver en 80 et qui va marquer l'arrivée du hip-hop et du rap en France. Ce morceau, c'est un sample de la ligne de basse et de guitare de Good Night, de Chic. Et en fait, voilà, avec des paroles qui sont mises dessus, c'est vraiment le début aussi du sampling. Et puis, ce premier rapport avec, avec le hip-hop, l'ascension du hip-hop et tout ça. 80, c'est un peu comme 70, alors c'est peut-être récurrent tous les 10 ans, mais en tout cas, c'est aussi la fin de l'icône un petit peu qui meurt en 80. C'est l'assassinat de John Lennon, c'est la mort de Bob Scott, de la CDC, c'est le suicide de Ian Curtis, de Joy Division, c'est la mort de Bonham, batteur de Led Zeppelin. Enfin, voilà, c'est aussi des moments où les choses rebougent un peu comme ça. 81, c'est la mort de Bob Marley, c'est des grands noms comme ça qui vont disparaître. Et les années 80, elles vont être marquées très très vite en fait par quelque chose de très important qui va complètement révolutionner la musique, qui va l'orienter aussi dans un certain endroit assez commercial. Ça va être l'arrivée en 81 de MTV, qui va complètement changer la donne avec l'importance maintenant, c'est venu à ce moment-là, des clips. Je parlais de Jackson 79, c'est en fin 82 qui sort Thriller, et c'est là que le clip va tourner en boucle absolument partout, et alors, outre la qualité musicale évidemment, mais va complètement mettre Michael Jackson au devant de la scène et va permettre de le lancer à ce endroit-là. Ce qui est quand même intéressant avec MTV, c'est qu'ils ont tout le temps travaillé sur ce qu'ils appellent la rotation musicale, c'est-à-dire un artiste arrive et la maison dit qu'elle est moyen, on met le clip sans arrêt. Je vous ai parlé la dernière fois de ce qu'avait fait entre autres Europe 1 avec le matraquage, c'est-à-dire on met du Dalida 77 fois par jour et on s'en est sûr que les numéros 1 dérange. MTV, c'est la même chose. Mais MTV, entre autres, quand Teen Spirit de Nirvana est sorti, dans les années 90, ils ont aussi mis du Nirvana sans arrêt. Donc c'était pas non plus que sur de la soupe commerciale, entre guillemets, même si je suis un petit peu méchant par rapport à ça. En tout cas, ça va être quelque chose de très très important, l'apparition des chaînes musicales, MTV en 81, qui arrive en France en 83. Le CD arrive en 82. En France, on a bien sûr la libéralisation de la bande FM, qui va changer aussi beaucoup de choses, avec une vraie ouverture sur beaucoup beaucoup de styles. On parlera, ça permet aussi un petit peu de la sono mondiale, la grande sono mondiale. Et puis on va voir aussi le matériel qui va beaucoup évoluer, avec notamment tout ce qui est électronique qui va continuer à se simplifier, à être de moins en moins cher. Avant, avoir un synthétiseur, ça coûtait vraiment extrêmement cher, et là on va être sur quelque chose de beaucoup plus facile. Synthétiseur, boîte à rythme, et on va voir arriver en fait toute la grande famille de la Britpop, ce qu'on a appelé la seconde invasion britannique dans les années 80, donc c'est là où toute la pop musique, la pop rock va arriver. Et puis après tous les groupes qui me sont façonnés, nous français, comme Partenaire Particulier, ce genre de choses, dont on a pu échapper. Mais ça va vraiment aussi être très très important. Musicalement, dans les années 80, les choses ont continué encore à se diviser, en tout cas sur des choses de plus en plus précises, en tout cas des chapelles et des sous-chapelles. Dans le rock, par exemple, on va avoir toute la lignée du rock FM, comme Toto, un peu comme Alain, qui fait partie de ça. On va avoir, à partir de 83, le hard, le heavy metal, et toutes ces choses qui vont arriver, avec entre autres, par exemple, Metallica en 83, qui sort son premier album. Ce qu'on va appeler après le British Heavy Metal avec des groupes comme Iron Maiden ou ce genre de choses. Il va y avoir un revival assez important du blues avec Steve Ray Vaughan par exemple. On va arriver à Splatcast en Calgary, les choses commencent un peu à partir. Nine Inch Nails apparaît au début des années 80, qui apporte l'Indus. On a des choses beaucoup plus fusion. La fin des années 80 avec Christomore, par exemple, sur ce groupe. Et puis en France, on est vraiment après le punk, ce qu'on va appeler le rock alternatif. Et des groupes comme les Ludwig, Ludwig 88, les Garçons Couchés, la Malo, Manonécra. Et puis d'un autre côté, après les Nécrasverts, les VRP, toute cette scène alternative qui va vraiment se mettre en place et qui va bénéficier, comme je l'avais dit, du fait que ce mouvement punk, il a pu construire aussi des réseaux, beaucoup, beaucoup de labels indépendants qui ont un peu soutenu cette pratique, en tout cas la diffusion de cette musique. Alors, les années 80, on rentre dans un endroit où, dans un moment de la musique qui est maintenant de plus en plus très présent, où en fait on voit l'apparition aussi des superstars, quand je parlais de Clapton qui va complètement exploser. À partir, donc je parlais du clip de Thriller, Clapton vraiment ça a vraiment cartonné, c'était début 83 quand il sort Billy, le morceau. Je sais pas si c'est. Donc, vous connaissez tous avec le solo de guitare de Van Halen, très connu. Pour une petite anecdote, lorsqu'ils ont commencé à travailler sur cet album, ils s'étaient dit que ce serait pas mal d'avoir un son un peu rock, justement un peu hard pour aller avec ça. Donc, ils appellent Eddie Van Halen, le guitariste de Van Halen, qui commence à se faire reconnaître pour ses solos de guitare et tout ça, et ils lui proposent de passer au studio pour enregistrer gratuitement, comme ça, généreusement, ce que va faire Van Halen. Et Van Halen il était en train de faire des sessions avec son groupe, il avait dit on va essayer de faire ça discrètement, histoire que les autres ne sachent pas, ce sera un peu tranquille. Dommage. Succès planétaire, et donc il a joué gratuitement sur ce disque en disant toujours que c'était cool et qu'il avait fait ça par amitié. Alors que je pense que ça vaut quand même pas mal. Sachant que donc Thriller, je l'avais dit aussi une fois, c'est l'album le plus vendu de toute l'histoire de la musique. On n'arrive pas à avoir l'archive très précis, mais on est quasi certain qu'il avait passé les 100 millions de ventes pour cet album-là. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez important. Et puis, début 80, dans les superstars, on voit aussi arriver cette demoiselle-là. La plus payée, la plus riche, la plus tout ce qu'on veut, celle qui n'a plus d'âge, et qui a vendu, elle a dépassé les 400 millions d'albums vendus quand même à ce jour. Donc voilà, c'est aussi à ce moment-là que les choses apparaissent comme ça. Il y a aussi des artistes, je voulais quand même en parler, qui continuent à mêler pas mal de choses, donc je voulais juste mettre un petit peu. Les années 80, ça va être quand même l'époque, la chose la plus importante qui va se passer, ça va être tout ce qui va toucher aux musiques électroniques, donc le hip-hop, avec entre autres The Message de Grand Master Flash qui sort en 82, qui va être vraiment aussi un des morceaux extrêmement connus. En France, on va avoir une émission à la télé, la première émission sur le hip-hop, qui va s'appeler justement Hip-Hop, qui va être présenté par un animateur qui s'appelait Sidney, qui est quand même le premier animateur noire en France à la télévision, et qui va permettre aussi de que les gens se familiarisent en tout cas avec cette culture. Les premiers rappeurs français comme Dynasty, les premiers scratchers, c'est au début des années 80 qui vont arriver. On va voir arriver aussi des groupes comme Beastie Boys, qui vont mélanger ça avec des choses aussi un peu plus, avec un esprit vraiment punk, et puis des groupes comme NWA, avec le titre là, que je vais vous faire écouter, qui en 88 vont aussi avoir une énorme répercussion mondiale, musicalement et puis aussi en termes de paroles, sauf la police. La musique va avoir une une importance assez forte. Le Live Aid de Bob Geldof en 85, il réunit notamment demain, des Zeppelin, Black Sabbath, U2, Madonna, Queen, voilà, tous ces grands groupes qui jouent pour essayer d'avoir de récupérer de l'argent et puis d'aller aider les populations en revenant en Afrique. En France, j'ai pas un Nick Goldman, mais j'ai mis ça. Faut faire écouter. 1993. Le rap, en tout cas en France, il aura vraiment une portée très, très importante au niveau social. Là, on a entendu un petit peu des paroles très très crues, très très rentre dedans. Et ça va aussi permettre toute une jeunesse, en tout cas toute une population, de se reconnaître, de revendiquer pas mal de choses. La musique va vraiment aider à porter tout ça. Les années 90, c'est aussi aux États-Unis. L'apparition et l'explosion en 91 du crunch avec entre autres Nirvana, le raz-de-marée Nirvana. Le lien va commencer à se faire aussi entre le rock et la musique électronique avec par exemple des groupes comme Radiohead avec OK Computer en 97, ce genre de groupe, l'arrivée du trip hop aussi avec Massive Attack qui va apparaître aussi à ce moment-là. C'est la création des boy bands aussi, et avec tout un matraquage qui va permettre aussi boy bands et puis les girls bands, donc Spice Girls, Tech Dance, voilà, tous les groupes qui vont lancer aussi cette mode de la variétisation. Et puis donc parallèlement, je vous le disais, ce mouvement de la techno qui va aussi partir, qui est parti d'Angleterre avec des collectifs qui utilisent le mode de vie Travelers, comme par exemple certains Anglais qui ont quitté le pays pour fuir les lois Thatcher et qui vont en fait aller jusque entre autres en République tchèque, qui a une très grande scène sur la République tchèque, la Pologne, l'Allemagne de l'Est, pour aller emmener la techno avec ce mouvement électronique qui va un peu se scinder en deux parties, le mouvement free, qui va aussi avoir la musique qui va être liée. Donc la free party à la base, c'est un peu comme ça vient de l'idée de la rave, sauf que pour sortir un peu de ça, l'idée c'était de prendre un espace autonome, de faire des zones d'autonomie temporaire, et puis d'être dans un endroit très très libre, free dans le sens où on arrive. Et puis il y a les gens qui veulent mettre un peu d'argent pour payer le système et tout ça. Mais en tout cas, ne pas être dans l'idée où la rêve c'était comme une grande fête de consommation, c'était une sorte de boîte de nuit en extérieur parce qu'il n'y avait plus de place dedans. Donc le mouvement free qui part de côté, et puis le mouvement plutôt dance, qu'on fera aussi un peu mouvement club, ce que j'appelle du clubbing, avec ce sera plutôt la techno, la acid house, la jungle, alors que le mouvement free on est plutôt sur le hardcore, le hard tech, le breakbeat, ce genre de choses. Donc par exemple, les Style of Flight, qui était un crew, une tribu anglaise qui a quitté l'Angleterre en 92-93 et qui arrive en France en 93 et qui va commencer aussi à réaliser ça. Voilà, je vous disais aussi, pardon, que la hyperisation des bandes FM avait amené ce qu'on appelait la grande sono mondiale. La sono mondiale, c'était entre autres avec comme Radio Nova, mais c'était même un peu plus tôt dans les années 80. Toute la musique de l'immigration peut être vraiment diffusée maintenant et les gens ont beaucoup accès à ce genre de culture. Ça va donner dans les années 90 ce qu'on appelait la world music, donc il va aussi y avoir tout un courant assez fort par rapport à ça. Et puis, on va quand même voir arriver plusieurs choses un petit peu très violentes par rapport à l'industrie elle-même. Je disais que les années 80, ça s'était plutôt ouvert avec énormément de labels indépendants, de choses qui s'étaient construites. Les choses vont se resserrer dès le milieu des années 90. Déjà au niveau du réseau des radios, il y a beaucoup de radios qui prennent beaucoup d'importance. Par exemple, Europe 1 qui a développé Europe 2, qui a monté Skyrock, qui a pris le contrôle de RFM. C'est à ce moment-là que les choses vont se mettre en place. Donc, on resserre un peu le nombre de personnes autour de la table. Et puis, les labels indépendants vont aussi commencer à se faire un petit peu asphyxier. Donc, soit détruire, soit racheter pour ceux qui étaient intéressés, avec des artistes indépendants qui vont quitter leur label, comme la Mano Negra qui était sur Boucherie Croix et qui va passer à Virgin, comme les MRP qui étaient à Bondage qui vont à Phonographe, les Vampas qui étaient à Murose et qui vont à BLG. Voilà, beaucoup d'artistes en fait vont laisser un petit peu lâcher cette scène indépendante et vont aller sur des labels un peu plus grands. Et ça aboutira à ce qu'on sait, à ce qu'on voit maintenant, entre autres avec au niveau de ce qu'on appelle la crise du disque. Tout va commencer à se resserrer à cet endroit-là, et puis aussi on va apparaître aux États-Unis, ça c'est quand même important de préciser, l'importance des carrières d'artistes un peu toutes faites et un petit peu calibrées, avec entre autres le Mickey Mouse Club. Alors, le Mickey Mouse Club, c'est un club qui a été créé dans les années 30 aux États-Unis, qui avait un rapport un petit peu à la scout, on va dire, où les enfants étaient ensemble et jouaient sous l'égide de Mickey. Et puis dans les années 55-56, ils ont créé une émission de télévision, le Mickey Mouse Club, et l'idée c'était, il y avait des concours, appel à projet aux États-Unis, et quand des enfants jouaient bien, ils passaient devant la caméra et ils chantaient une chanson. Ça va vraiment devenir une sorte d'usine à créer des stars et des produits de consommation musicale, avec entre autres une année très très riche, une très bonne saison en 93-94, c'est là les notables. 93-94 sortent du Mickey Mouse Club Christina Aguilera, Justin Timberlake et Britney Spears. Donc tous les produits qui vont maintenant complètement, qui ont dominé en tout cas tout ça. Et actuellement, si vous connaissez des artistes qui sont en train de démerger, comme Selena Gomez, Miley Cyrus, Charlie Ray Jepsen, tout ce que ma fille écoute, malgré l'interdiction formelle que je vous donne. Voilà, tous ceux qui vont nous inonder et qui vont complètement devenir l'été de la pop musique dans les années qui viennent, voilà, ça fait aussi partie de l'univers de Disney. Donc on est aussi, la fabrique à stars, elle commence aussi à marcher à cet endroit-là. Et puis on va arriver sur les années 2000, donc là c'est un petit peu la fin de ce que j'ai à raconter, en tout cas par rapport aussi à cette histoire de transgression, parce qu'à partir des années 2000, il n'y a plus grand chose qui transgresse quoi que ce soit. On est plutôt sur des recettes avec un marché qui s'est vraiment resserré, la crise du disque, en tout cas le fait que l'apparition d'Internet est complètement bouleversé la donne, n'a pas du tout été suivi évidemment par les grands majors qui n'ont rien vu et qui n'ont absolument pas voulu changer leur système, qui sont retrouvés complètement à la rue juste après, et puis on va avoir une grande domination de la pop mondiale avec des mégastars, donc du U2, du ACDC, du Madonna, et puis aussi des méga concerts. Je vous avais dit la dernière fois, entre autres, la tournée des Stones en 2005, Big Event, qui va récolter à elle seule 1,5% de toutes les recettes mondiales sur l'année. Et ils vont quand même, alors ils voulaient être en Guinness, les Stones quand même. Ils ont donné un concert au Brésil sur la plage de Copacabana devant 1,7 million de personnes. J'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible. En tout cas, voilà, le record à battre. Ça s'est passé là. Donc en fait, les années 2000, eh ben, on a vraiment des artistes solo qui sortent. et qui domine un peu tout. Donc, je parlais de Whitney Spears, on a aussi du Kylie Minogue, on a beaucoup d'artistes comme ça. On est vraiment sur un rapport de pop star solo à laquelle on peut s'identifier. Et puis autrement, on va apparaître. On voit quand même arriver au niveau du rock l'idée de chercher un son un peu plus roots. Mais c'est vraiment marqué cette période par une créativité quand même un petit peu plus faible au niveau du rock et du hard rock, des choses comme ça, avec l'idée un peu de la course et de faire quelque chose qui marche et qui peut avoir d'essayer de trouver un petit peu du public pour supporter la diminution des ventes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois maintenant. On va voir aussi apparaître en France les télé-réalités. Nouvelle Star, maintenant on est sur The Voice et ce genre de choses, donc ils vont aussi continuer à être dans cette construction d'une sorte de mythe de l'artiste qui se fait très vite tout seul, et puis à partir du moment où le public peut voter, des choses sont passées, donc on est vraiment sur une construction à ce niveau-là. On va continuer sur le métissage des genres, donc j'en ai noté quelques-uns, c'est l'électropop par exemple, c'est le rap rock, l'électro-rock, c'est par exemple Muse ou Justice. Et puis on va voir aussi évidemment, alors ça on ne pouvait pas louper, ça qui est arrivé le 13 2007.
Yeah. en train de se dire.
Alors ça, c'est quand même très important que l'insight, c'est une bonne façon, enfin, en tout cas, on est là, c'est-à-dire, quand quelqu'un qui lance une vidéo, et donc j'ai regardé tout à l'heure le nombre de vues sur YouTube et sur Dailymotion, puisqu'on parle, c'est le cadeau. YouTube, on était à 1 milliard 900 millions de vues, et Dailymotion, seulement à 7 millions 778 000 et tout ça. Donc ok, il y a plein de gens qui regardent, et ça augmente sans arrêt. Il y a 6 mois, on était à 1 milliard 2, donc là, on est quasiment à 2 milliards de personnes. En tout cas, 2 milliards de vues. Mais ce qui est important, ce n'est pas uniquement le fait que les gens regardent, c'est la nouvelle économie de la musique. C'est-à-dire que quand il était à 1 milliard de vues, on avait déjà estimé qu'il avait gagné, lui, plus de 8 millions d'euros en revenus publicitaires seulement par YouTube. Et que YouTube avait aussi gagné 8 millions d'euros par la publicité qui passait lorsque les gens regardaient ça. Donc c'est vraiment la nouvelle façon aussi de faire de la musique, de vivre de la musique. Et c'est un exemple quand même relativement fort de la façon dont ça se met en place. Voilà, donc la transgression actuellement, elle doit encore certainement exister au niveau de la musique, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu plus cachée depuis 15-20 ans. Et jusqu'à présent, on va dire milieu des années 90, fin des années 90, le rap avait encore un peu porté ça. La techno aurait pu le porter, mais elle a été complètement muselée par les médias. La musique a toujours servi à porter des messages aussi au niveau sociétal, au niveau avec des vraies revendications, et puis accompagner des mouvements sociaux assez importants. Maintenant, la musique, et c'est aussi la première chose qu'on dit à des artistes quand ils veulent essayer de faire de la musique, on leur dit, fais quelque chose d'assez cool qui permet soit de faire de la musique de pub, soit d'accompagner des films, soit de. Voilà, tu seras peut-être une marque qui vend des fringues, qui pourra mettre la musique en fond et ça fera du droit d'auteur. Donc on en est là actuellement au niveau de la musique, et c'est vrai que ça attend. Voilà, les choses ont un petit peu changé. Enfin, c'est ce que je vois bien. Voilà, je vais vous laisser la parole et on va parler. Voilà, en tout cas.